RCF. L'évangile de cette semaine met en scène Jésus qui fait la lecture chez lui, dans son village, au cœur de la synagogue de Nazareth qu'il fréquente depuis l'enfance. C'est ainsi que Luc décide d'ouvrir la vie publique de Jésus qu'il reconnaît comme Christ ou Messie. Luc, qui rédige son évangile environ 70 années après la résurrection, souhaite ainsi raconter l'itinéraire d'un homme qu'il n'a pas connu personnellement, mais au sujet duquel il a recueilli des témoignages nombreux. Pour écouter et commenter avec nous cet évangile, je reçois Gérard Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Luçon, bibliste, président de l'Alliance biblique française. Nous écoutons la parole, c'est dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4, et puis chapitre 4, versets 14 à 21.
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. »
Revenons avec vous sur le commencement du texte qu'on a entendu. C'est Luc qui explique qu'il a recueilli donc des témoignages et il décide d'écrire concernant ce fameux Jésus. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, Luc est un excellent historien, mais un historien... j'allais dire, selon l'Antiquité. Alors, il nous dit qu'il s'est soigneusement informé. Donc, il faut imaginer, aujourd'hui, on imagine Luc comme étant un personnage qui a véritablement enquêté. Et vous savez que le mot « historia », ça veut d'abord dire « enquête ». Donc, il a enquêté, il a recueilli des témoignages, mais il dit ensuite, pour son commanditaire, qui s'appelle Théophile, il dit qu'il a écrit un récit ordonné. J'ai d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi. Un exposé suivi, autrement dit, il va y avoir un début, un milieu et une fin. Il n'a pas organisé les éléments n'importe comment. Il y a donc une ligne et c'est là où nous sommes, nous, un petit peu perturbés. La ligne, elle n'est pas tout à fait chronologique, elle est plutôt théologique.
Alors, qui est ce fameux Théophile ? Cher Théophile, je t'écris pour te raconter ce qui s'est passé.
Alors, bon, Théophile est un nom grec qui veut dire « ami de Dieu ». Donc, on peut imaginer parfaitement que c'est le commanditaire de l'œuvre de Luc. Ben, mon Dieu, ça se finance, faire une enquête, écrire. Mais en même temps, il a un nom si symbolique que finalement, Théophile, c'est vous et c'est moi. Ce sont tous ceux et celles qui, ayant entendu parler de Jésus, ayant déjà été catéchisés, eh bien, Luc leur donne un récit suivi, eh bien, pour que ça conforte ce que nous avons appris. L'évangile, il n'est pas là forcément pour donner la foi, il est là pour conformer la foi.
On ne va pas rappeler toute la construction de l'évangile de Luc, mais ça partait de quoi ? Des traditions orales ? L'écriture de l'évangile, ça part d'une...
Alors, l'évangile de Luc, vous savez... on va partir de l'a priori, mais qui est assez historique, c'est que Jésus, donc il a été crucifié le 7 avril de l'année 30. Dans les semaines qui ont suivi, ses disciples le disent ressuscité. Vous avez la grande aventure de l'évangile. Et on n'a pas écrit tout de suite les évangiles parce qu'on était à peu près persuadé que la fin du monde était pour bientôt. Et que donc le Christ allait revenir et que, bah, justement, il fallait s'installer dans l'attente du retour du Christ. Il fallait vivre. Il fallait également que le maximum de personnes puissent entrer dans le grand mouvement de la bonne nouvelle. Par contre, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que si le retour du Christ tardait, que peut-être on s'était trompé sur la date. On pensait que c'était dans l'immédiat. Et en fait, c'était à un moment qui nous échappait.
Et donc, il fallait écrire.
Exact. Il fallait s'installer dans l'attente du retour du Christ. Et il fallait mettre par écrit le témoignage, justement, de ceux et celles qui avaient connu Jésus, à commencer par les apôtres, bien entendu. Et donc, l'évangile de Luc, il est écrit habituellement, nous dit-on, vers les années 70-80 de notre ère. Donc, et Luc, qui n'a pas connu Jésus, a reconnu les témoignages de ceux qui ont connu Jésus.
Gérard Billon, après le début de l'évangile de Luc que nous avons abordé là il y a un instant, il y a les évangiles donc de l'enfance,
oui.
Puis il y a le baptême de Jésus, le récit des tentations, oui. Et tout de suite après on le retrouve en Galilée. Et c'est là que le texte recommence, là dans l'évangile de ce dimanche. « Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. »
Alors là, vous avez une phrase de type général, je veux dire, qui pourrait être valable pour tout ce qui va suivre. Et puis, on passe du général à un particulier, un épisode, et qui sans doute est un épisode extrêmement symbolique. C'est le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, de la mission de Jésus. C'est le premier épisode. Est-ce que la bonne nouvelle, la parole qu'il porte de la part de Dieu, est-ce que ça va être accueilli? Eh bien oui, dans cet évangile, au moins dans la coupure qui a été faite par la liturgie, eh bien, les derniers passages, c'est tout le monde a les yeux fixés sur lui et il dit « Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit ».
Il est fait mention de la puissance. Jésus arrive avec la puissance de l'Esprit en Galilée. Oui. Ça, c'est important. Il y a eu le baptême.
Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Non seulement vous avez eu le baptême, mais l'Esprit Saint est descendu déjà sur Marie. C'est-à-dire que dès la conception, l'Esprit Saint est là. Luc est sans doute de tous les évangéliques celui qui insiste le plus sur cette puissance de Dieu, sur cette manifestation de Dieu parmi les hommes. Et alors, vous avez donc la conception de Jésus, vous avez le baptême de Jésus, vous avez l'Esprit également qui pousse Jésus au désert, c'est avec le récit des tentations, l'épreuve faite par Jésus et la façon de surmonter l'épreuve. Tout ça se passe sous l'Esprit. On peut dire que c'est également sous l'Esprit qu'il va tomber sur ce fameux texte où justement, ça commence par « L'Esprit du Seigneur est sur moi ».
Jésus, on se dit, il pouvait parler sur les places, sur les chemins. Et Luc nous dit qu'il enseigne dans les synagogues.
Ah oui.
Ça veut dire qu'il ne veut pas se démarquer. Effectivement, c'est un juif pratiquant et il va dans le lieu où vont tous les juifs le jour du Shabbat.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas la question qu'il ne veut pas se démarquer, c'est qu'il se situe dans le sillage de la foi de son peuple juif parmi les juifs. Il va prêcher, bien entendu, sur les places. Il va prêcher même dans des maisons. Luc va nous raconter des épisodes dans lesquels Jésus discute avec ses hôtes. Mais ici, c'est dans la synagogue. Et c'est quand même un lieu extrêmement important parce que la synagogue, c'est le lieu premier de l'écoute de la parole de Dieu. C'est le lieu premier de l'écoute des paroles de la vie. Et Shabbat après Shabbat, comme nous, dimanche après dimanche, nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit perturber. Elle doit toucher quelque chose en nous. Alors, parfois elle juge, parfois elle console, elle redonne l'espérance, elle conforte la foi, elle nous invite à aimer. Voilà ce que produit la parole de Dieu. Et dans la première lecture de ce dimanche, on raconte la lecture de la loi par Néhémie, c'est au retour d'exil. Les gens pleurent. Vous savez, dans les églises, je vois pas beaucoup de gens pleurer lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Mais évidemment, c'est un petit peu exagéré dans le texte des évangiles.
Ça veut dire que ça touche.
Ça touche, exactement. Ça doit toucher quelque chose de profond en nous. Et ici, le texte, je veux dire, il nous dit, ça touche profond parce qu'il est question de libérer et il est question d'ouvrir les yeux.
Alors, on va y venir, mais Jésus va à Nazareth, il a été élevé dans cette ville. Selon son habitude, il rentre dans la synagogue. il se lève pour faire la lecture. On a une scène là typique de la vie religieuse juive.
Tout à fait. On n'a pas de témoignage exact de l'office de la synagogue au premier siècle de notre ère. On en a pour le deuxième, troisième siècle de notre ère. Mais en gros, vous avez quoi? Vous avez des chants, vous avez des psaumes et vous avez une première lecture qui est toujours tirée de la Torah, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre ou Deutéronome, hein, la vie de Moïse. Et puis vous avez une deuxième lecture qui est tirée des prophètes. Et ici, c'est un texte du prophète Isaïe. Autrement dit, on ne sait pas quelle était la première lecture de ce jour-là. Mais on a ici la deuxième lecture, et c'est la deuxième lecture, celle des prophètes, qui semble la plus importante, puisque Jésus, il va faire ensuite l'homélie. Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez.
Mais voilà. Alors, qui, généralement, fait la lecture à la synagogue?
Alors,
c'est un
prêtre?
N'importe
qui, n'importe qui, n'importe qui. N'importe qui dans l'assemblée, toute personne, pardonnez-moi, tout homme, au-delà de 12 ans, les femmes sont un peu à part dans la synagogue.
12 ans, c'est la majorité.
Voilà, c'est ça. C'est la majorité, on peut dire, légale et religieuse. Donc, à partir de 12 ans, toute personne peut parfaitement se lever pour lire et pour commenter. Mais vous voyez bien que ceux et celles qui n'ont pas fait beaucoup d'études, oh, ils se risquent pas forcément à commenter le texte. On a dans le Nouveau Testament, on a deux exemples comme ça de lecture en synagogue. Vous avez Jésus ici, et puis vous avez Saint Paul dans une synagogue à Antioche de Pisidie, qui est également, on lui demande de lire et de faire l'homélie. Alors, pour Saint Paul, on a l'homélie qu'il va faire, alors que pour Jésus, on a plutôt le texte qu'il a lu, le texte le plus important, donc la deuxième lecture.
Enfin, une bonne nouvelle, RCF.
Gérard Billon, vous disiez que généralement on lit les prophètes durant le Shabbat. Alors Jésus ouvre le livre d'Isaïe, il trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Reprenons avec vous ce passage. Il est question d'onction et de consécration. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Alors, l'onction et la consécration, c'est une manière symbolique de dire que celui ou celle qui est envoyé, celui dont il est question chez le prophète Isaïe, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu et qui a été choisi pour une mission. Et la mission, elle est donnée dans la suite du texte, c'est une mission de libération. C'est une mission, donc, d'ouvrir les yeux, d'illumination. Et c'est une mission de bonheur, c'est proclamer une année de bienfait, une année favorable accordée par le Seigneur.
Mais ça veut dire qu'Isaïe annonce là la venue d'un Messie?
Non, pas forcément. Il n'annonce pas forcément la venue d'un Messie. Le prophète Isaïe, en fait, ce texte-là qui est donc plutôt, c'est issu de la fin du livre d'Isaïe. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, c'était un grand rouleau, on était plutôt rendu vers la fin. Le hasard a voulu que Jésus tombe sur ce passage, et heureux hasard, parce que vous avez ici un concentré de la mission de Jésus. Hein. Donc, le prophète Isaïe ne parlait pas forcément du Messie, il parlait de la mission de quelqu'un qui était consacré par Dieu. Le mot Messie n'est pas donné ici. Hein. Maintenant, nous pouvons, nous chrétiens, et je pense qu'un certain nombre de juifs le diraient également, que le prophète Isaïe parlait, dans la mesure où il parle de quelqu'un qui a été choisi par Dieu et envoyé par lui, qui a été consacré, il peut s'agir de quelqu'un qui est le Messie, c'est-à-dire l'envoyé, fils de David, si vous voulez. Et ça va se révéler dans la suite de l'évangile, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, il va accomplir, mais il va accomplir d'une manière qui n'était pas forcément attendue, parce qu'on ne savait pas comment ça allait s'arrêter. Il va accomplir la prophétie qui est ici, la libération des chaînes, qui sont ici plutôt des chaînes intérieures. Et l'aveuglement, alors il va guérir des aveugles physiques, signe de la libération d'un aveuglement spirituel. Hélas, il y en a un certain nombre des scribes, des intellectuels justement, qui sont censés mieux connaître les Écritures. Mais cela, il va, hélas, et c'est une difficulté. Quant aux évangiles, on peut être sensible à ça. Il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être illuminés, avoir les yeux ouverts et accueillir la bonne nouvelle dans leur vie.
En tout cas, ces bienfaits sont pour tous. Isaïe parle d'une année favorable accordée par le Seigneur. Alors, j'ai été voir le chapitre 61.
Oui,
Luc a omis quelque chose parce que le vrai texte, une année de bienfaits, mais aussi un jour de vengeance pour notre Dieu. Et oui. Ça, il l'a supprimé.
Oui, ça, il l'a supprimé. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah ben, ça veut dire simplement que, alors, parce que, alors, je veux dire, même pour nous aujourd'hui, proclamer une année de vengeance de la part du Seigneur, il faudrait que, c'est pas en deux minutes que je peux vous dire que ça signifie, hein, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire c'est la volonté pour le Seigneur de protéger son peuple. Je dis ça extrêmement brièvement. Mais dans l'évangile de Luc, et Luc, je vous le dis très brièvement, mais Luc également, lui, au lieu d'expliquer en une phrase, il le supprime parce qu'il va directement au sens. C'est donc pas le Seigneur qui va se venger en trempant ses pieds dans le sang des méchants. C'est absolument pas là, c'est pas ça. C'est vraiment pour l'année de vengeance, il est contre ceux et celles qui oppriment le peuple. Et donc, plutôt que d'expliquer ce côté négatif, il met en valeur le côté positif, c'est-à-dire donc la libération de ceux et celles qui sont, hélas, prisonniers de la méchanceté ou de toute entrave de type spirituel ou physique.
Gérard Billon, Luc nous dit qu'après avoir lu dans la synagogue, Jésus referme le livre, le rend au servant et s'assoit. Mmh. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre oui. ». C'est donc ce que vous disiez, la libération c'est pour aujourd'hui.
Oui, alors le mot « aujourd'hui » est extrêmement important dans l'évangile de Luc. Vous avez quatre moments où le mot « aujourd'hui » apparaît. Vous avez l'annonce au berger dans la nuit de Noël. « Aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David ». Un Seigneur qui est Christ Sauveur. La deuxième, c'est quand Jésus va arriver, c'est ici. La troisième, c'est quand il va aller chez Zachée à Jéricho. C'est aujourd'hui, il faut que je descende chez toi et aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et enfin, le dernier, c'est sur la croix avec celui qu'on appelle le bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, Jésus, il est l'aujourd'hui de Dieu. Le passé, le présent et le futur se concentrent dans la personne de Jésus. Voilà. Et ça c'est un trait caractéristique de l'évangile de Luc. Autrement dit, vous savez, aujourd'hui dans la liturgie, on a une première lecture tirée donc de l'Ancien Testament, on a une deuxième lecture qui est tirée des lettres de Paul, puis on a un texte d'évangile. Eh bien, j'allais dire, qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça, de toutes ces lectures, et avec le psaume et avec les chants, c'est la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs ici, quand vous remarquez la construction du texte, parce que Luc est très fin, c'est un très grand écrivain, ici, est-ce que Luc nous dit que Jésus a lu. Regardons le texte. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc, autrement dit, il tombe sur le passage. Alors, bien évidemment que si on voulait reconstituer au cinéma la chose, on verrait Jésus lire le texte. Mais Luc, en supprimant l'acte de lecture, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que Jésus, il est. Le texte lui-même, le véritable texte de Dieu, la véritable parole de Dieu.
Il est la libération.
Il est la libération. Il est celui qui ouvre nos yeux. Voilà. Il l'est, il le réalise. Il est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il y a de multiples paroles. Eh bien, tout se concentre dans la personne d'aujourd'hui. D'ailleurs, à la fin de la messe, enfin, quand on lit le texte, on va avoir « Acclamons la parole de Dieu » et vous répondez quoi ? « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Donc, le texte qu'on entend, il est parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, cela doit nous toucher, doit nous transformer.
Gérard Billon, nous avons avec vous regardé de près l'évangile de ce dimanche. Nous avons commencé à dire en quoi ça nous concernait, il vient nous libérer, c'est aujourd'hui.
Oui.
Nous pouvons entendre cette parole comme une bonne nouvelle. En quoi elle est une bonne nouvelle ?
Alors, mais justement, dans la mesure où nous nous laissons transformer par cette parole. Alors, vous avez de ce texte-là, vous avez un mouvement, vous savez, aux captifs la libération. Hein, on pourrait en parler, voilà quelqu'un qui donne ce texte-là comme étant un de ses textes fondateurs.
Oui, au captif la libération qui va dans les villes aider les personnes à sortir de la rue.
Voilà, c'est ça exactement. Eh bien voilà une manière concrète aujourd'hui de mettre en œuvre cet évangile. Maintenant, vous et moi, alors vous pouvez parfaitement donner pour ce mouvement-là hein, ou pour d'autres mouvements, mais vous et moi, dans notre vie quotidienne, il s'agit bien de se laisser transformer jour après jour par la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons en disposition ? j'allais dire, un moyen. Je suis bibliste. La Lectio Divina, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour faire la Lectio Divina.
C'est quoi la Lectio Divina?
La Lectio Divina, vous prenez le texte, vous laissez imprégner par le texte, c'est-à-dire vous le lisez, vous regardez comment il est organisé, puis vous laissez toucher par lui. Et puis, vous pouvez vous dire, tiens, mais aujourd'hui dans ma vie, à quoi ça peut correspondre? Vous savez, vous insistez beaucoup sur la libération. J'insiste aussi, mais vous savez que le centre du passage du texte du prophète Isaïe, c'est ouvrir les yeux des aveugles. Qu'est-ce qui m'aveugle aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de voir? Et ici, c'est pas simplement entendre la parole de Dieu, mais de voir l'action de Dieu à l'œuvre. Quels sont mes aveuglements? Quelles sont les choses sur mes paupières qui finalement m'empêchent de voir que Dieu, il agit. Il agit par des personnes, il agit par des gens, il agit par son Église, il agit même parfois en dehors de son Église.
Vous voulez dire qu'il agit et qu'on ne le voit pas?
Oui, ça peut arriver, tout à fait, tout à fait.
Mais alors, comment rentrer dans cette vision?
Je crois que la méditation, la parole de Dieu et la Lectio Divina aident. Méditation, Lectio Divina ou pas, parce que vous entrez et finalement vous posez la question, tiens, aujourd'hui, quels sont mes aveuglements? Et puis, vous êtes un peu comme Jacob, une fois qu'il a eu sa vision de l'échelle qui était entre le ciel et la terre, c'est « Ah oui, le Seigneur était là et je ne le savais pas ». C'est-à-dire que réfléchissant, relisant notre vie, ce n'est pas sur le moment où nous nous rendons compte que Jésus était là ou que Dieu était là ou que son esprit était actif, c'est quand on y réfléchit, il faut toujours faire une pause. Et l'un des modèles de la pause, il nous a été donné précédemment dans les chapitres 2 et 3, c'est la Vierge Marie. Elle recueille toutes choses dans son cœur, ça ne veut pas dire qu'elle a tout compris. Non, non, mais elle emmagasine. Nous aussi, nous avons à emmagasiner les mots qui nous viennent des évangiles, à emmagasiner également les événements que nous traversons, que nous vivons, les événements joyeux, les événements douloureux. Et peut-être un jour que ça va se cristalliser et ça va prendre sens. C'est pour ça qu'il faut que de temps en temps dans notre vie, on fasse un petit break. Alors, ça peut être la Lectio Divina ou une méditation le matin. Ça peut être un week-end de récollection, ça peut être une retraite.
Gérard Billon, Luc nous dit que Jésus a l'habitude d'aller à la synagogue. Nous aussi, nous avons nos habitudes.
Tout à fait.
Nous pouvons aller à la messe chaque dimanche
Tout
ou au culte chaque dimanche.
Ouais.
Comment sortir de la routine et entendre la parole, puisque ça reste le défi quand même numéro un?
Alors, comment sortir de la routine? Vous avez deux choses pour sortir de la routine. Vous en avez trois. La première, c'est les conditions de lesquelles nous écoutons la parole de Dieu le dimanche. Il faut avoir de bonnes conditions. Il faut avoir un bon lecteur, il faut avoir de bons mitraux. Et il faut surtout mettre en valeur la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parfois des liturgies qui négligent cette étape absolument indispensable qu'est l'écoute de la parole de Dieu parce qu'ils se focalisent trop sur la louange eucharistique, laquelle est l'accomplissement, bien entendu, de l'écoute de la parole de Dieu. Mais pas l'un sans l'autre, surtout pas l'un sans l'autre. Vous savez, j'ai connu des gens qui me disaient, mais vous savez, nous, tu sais, on a des enfants, alors nous, on lit les textes dans la voiture, et le plus important, c'est quand même l'Eucharistie. Je dis, non, je suis désolé, non. Les deux, ils vont ensemble. Donc, il y a ces conditions-là. Alors, les conditions de la communauté chrétienne et les conditions du cœur. Est-ce que nous sommes persuadés que, à la fois dans le culte du dimanche ou à la messe du dimanche, mais également tous les jours, la parole de Dieu peut aujourd'hui transformer notre vie? Ça, c'est une transformation importante et Jésus, il a toujours à agir.
Alors, elle passe par une transformation personnelle, mais aussi vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que c'est pas moi avec Dieu tout seul, mais ça va changer mon lien avec le monde, mon lien avec les autres, ma façon de les regarder.
Alors, oui, tout à fait, ça peut changer ma façon de regarder le monde, c'est-à-dire que Dieu, il agit dans le monde, il agit pas simplement dans ma propre vie, il agit également par ceux et celles que je côtoie, peut-être par d'autres événements importants dans le monde, mais vous soulignez une chose importante ici, l'écoute, elle est communautaire. Bien entendu, parfois, et quand je fais la Lectio Divina, je suis moi seul devant le texte. Mais en fait, je suis jamais seul avec moi. Il y a tous ceux et celles que je connais. On n'est jamais seul. Moi, je suis avec les gens de Nazareth quand je lis ce texte-là. Et parmi les gens de Nazareth, je me dis, mais enfin, voyons, est-ce que moi, j'aurais écouté, entendu et fait le lien entre l'aujourd'hui de Dieu annoncé par le prophète Isaïe et l'aujourd'hui de Dieu réalisé en Jésus-Christ? Mais j'en suis pas tout à fait sûr.
Et alors, cette libération, il faut ouvrir les yeux pour la voir, à l'œuvre,
oui,
parce qu'elle existe aujourd'hui.
Elle existe aujourd'hui, j'allais dire, c'est le parti pris d'espérance qui est la nôtre. Vous savez, notre Église aujourd'hui, elle traverse une tempête ou des turbulences, et c'est sans doute atroce. Mais vous savez, dès le début de son pontificat, le pape François a insisté sur la joie d'Évangile. C'est-à-dire que même ça, au milieu des tempêtes, on doit se dire qu'il y a une joie profonde. Et c'est ça qui est raconté ici dans cet Évangile-là. Vous savez, nous sommes au troisième dimanche du temps ordinaire, donc on est au début. Il y a encore toute l'année. Nous sommes au mois de janvier ou au début du mois de février et il y a toute l'année à vivre persuadé que la joie, c'est d'abord quelque chose qui doit habiter notre cœur plus que la nostalgie, on n'a rien à faire, plus que la tristesse. On a des raisons de pleurer, on a des raisons de se révolter, mais justement, et les pleurs et la révolte doivent passer par cette certitude qui est au cœur de notre foi, que Dieu nous libère de toutes nos peurs. Je pense que parfois nous sommes enserrés dans nos peurs.
Merci à vous, Gérard Billon. L'évangile de ce dimanche est à retrouver dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, et chapitre 4, versets 14 à 21. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.